Vous écoutez France Inter, souvenez-vous, naguère, on s'envoyait beaucoup de lettres de vœux. C'était le cas en janvier 1960, des courriers partaient dans tous les sens. Et puis arrive la nouvelle, Camus est mort dans un accident de voiture au sud de Fontainebleau. C'était le 4 janvier 1960.
La révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan.
L'année 1960, sans Camus.
Ici Alger, RTF. Si Albert pouvait nous parler, il nous dirait de nous taire. C'est le leitmotiv des intimes de Camus que nous avons pu toucher ces dernières 24 heures. Car Albert Camus n'a jamais aimé qu'on parlât de lui. Aujourd'hui, la douleur a fait place à la surprise et à l'incrédulité. Pour beaucoup, le travailleur acharné que fut Camus, homme de théâtre, le visionnaire révélé par les actuels dès avant la Deuxième Guerre mondiale, est encore parmi nous. C'est dans le silence que se réfugient ce soir tous les amis d'Albert Camus et sa mère dans son modeste logement des faubourgs d'Alger. Ici, Jean Lanzy qui vous a parlé d'Alger, à vous, Paris.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Paris qui ne va pas renoncer à parler. Surtout que le troisième invité de notre série Camus est là, c'est Vincent Duclerc, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors qu'on connaît par de multiples livres sur l'affaire Dreyfus, sur Jaurès, Elia Lévy, les intellectuels, les savants, enfin, les acteurs de l'engagement démocratique, c'est quand même un des nœuds de votre travail patient d'historien. Et Camus, il disait que le métier d'écrivain n'était pas étranger aux enjeux du présent. Peut-être juste un mot pour expliquer que vous publiez, il est disponible en librairie demain, chez Stock, Camus, des pays de liberté. Vous avez un souvenir familial assez fort qui a trait aux dernières semaines de Camus qui vont nous retenir.
Oui, ce livre, c'est un peu un hommage aussi à peut-être la meilleure part de ma jeunesse, c'est-à-dire que avant même mon baccalauréat, il s'est trouvé que, étant à Aix pour des petites vacances, j'ai revu mon grand-oncle François Meyer, qui était professeur de philosophie à Aix-en-Provence, qui était un spécialiste d'Unamuno, du reste. Et on en est venu à parler de Camus, et là, il m'a raconté, effectivement, qu'il avait accueilli Camus pour cette conférence du 14 décembre 1959. Hein. Camus venait à Aix-en-Provence pour échanger avec les étudiants étrangers d'Aix-en-Provence, accueillis à Aix-en-Provence, et là, donc c'est François Meyer qui a organisé en fait cette rencontre et quelques semaines plus tard, 15 jours plus tard, Camus meurt donc le 4 janvier. François Meyer est très affecté et pour le premier anniversaire de la mort d'Albert Camus, il écrit dans la semaine à Aix eh bien, la relation sur trois pages très denses de cette conférence, des échanges et il restitue aussi la parole d'Albert Camus et c'est donc ce petit article qu'il m'avait donné là, j'avais 17 ans. Et voilà, ça m'est effectivement, je l'ai gardé toute ma vie. Et puis, je me suis dit, au fond, que ça pourrait faire le point de départ d'un livre sur Albert Camus.
Alors, s'il est intervenu, c'est sa dernière intervention publique à Aix-en-Provence, c'est qu'il passait depuis 2 ans, de plus de temps, dans une maison qu'il venait d'acheter à Lourmarin. Maria Cazares lui écrivait dorénavant, mon beau seigneur en Provence. Vous parlez de tous les articles qui ont été publiés après la mort de Camus, notamment d'un numéro de la Nouvelle Revue Française, où Brice Parrain dit... Je lui ai fait la remarque plusieurs fois ces derniers mois, mais vous êtes superbe. Votre visage est reposé, vous avez changé, tous vos traits sont à leur place dans une sorte d'ordre naturel. Il y avait un moment de bonheur.
Oui, il y a un moment de bonheur parce que pour Camus, c'était peut-être la fin de l'exil. C'est-à-dire que quand Camus a été contraint, au moment de novembre 1942, hein, de demeurer en métropole et donc de renoncer hein, à cette vie à Alger qui était très importante parce que c'est une vie de création théâtrale, culturelle, avec la Maison de la Culture d'Alger. Il faut se souvenir effectivement de ce qu'a pu représenter ce moment des années 30 à Alger. Ben, il est en exil, il est quand même très largement rejeté par le milieu littéraire et intellectuel intellectuel parisien qui est jalouse d'une certaine manière son succès littéraire, et donc il est dans une forme d'errance, et puis Lourmarin, c'est le lieu qui va au fond lui redonner font sa place, et puis aussi, hein, il faut le dire, c'est là où il va réussir à reprendre ce grand roman qu'il travaillait depuis 10 ans après la peste, hein, et là, c'est le premier homme, et au moment de sa mort, dans la malle de la Facel Vega, eh bien, on va retrouver un manuscrit quasiment terminé, hein, du premier homme.
Dans le Figaro littéraire, Guy Dumur, après la mort de Camus, dit « Il y a quelque chose de mystérieux qui relie la mort de Camus avec celle de Gérard Philippe. » Gérard Philippe, comment dire, il est mort en décembre 59, Camus a été assailli de coups de téléphone. « La vie nous a séparés », explique-t-il.
Oui, voilà. Il y a eu effectivement des séparations, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est la manière dont cette France qui rentrait dans la modernité, dans les Trente Glorieuses, c'était les années 60, hein, bien, je veux dire, tout d'un coup est frappée par une sorte de double tragédie, la mort de Gérard Philippe et la mort d'Albert Camus, et je crois que pour les contemporains, ceux qui sont nés dans cette période, et puis les plus anciens, je pense à ma mère par exemple, bien, je veux dire, cette double disparition montre que finalement les années 60 ne vont pas être aussi belles qu'on imaginait, et que la tragédie va continuer à accompagner l'histoire de France.
Il s'intéresse beaucoup au théâtre, il vient de donner Les Possédés, une représentation se sont terminés à Paris l'été, et puis la pièce part en tournée en province. Morvan Lebesque, que vous citez comme un des tout premiers biographes de Camus, il va publier un Camus par lui-même en 63, il est un grand journaliste au Canard Enchaîné.
Quand il s'est agi de faire la tournée des Possédés, il y avait un personnage qui n'avait pas encore été distribué, qui était le narrateur. Et on avait dit à Camus, pourquoi ne le prendriez-vous pas? Et Camus avait été très tenté de le prendre. On ne peut pas s'empêcher de songer que si Camus avait accepté de tenir le rôle de narrateur dans sa tournée des Possédés, le drame n'aurait pas eu lieu. Car Camus s'est tué en voiture le jour où la tournée, justement, jouait à Tourcoing. C'est dans l'après-midi, d'ailleurs, les comédiens devait jouer le soir à Tourcoing, et en arrivant à Lille, au moment où le car, il voyageait en car, s'est arrêté à Lille, on a appelé Monsieur Pierre Blanchard et on lui a dit « Il y a quelqu'un qui vous demande au téléphone. Ici, l'AFP, que pensez-vous de la mort d'Albert Camus ?» Et c'est comme ça que la troupe a appris qu'Albert Camus venait de se tuer. Mais vous savez ce qu'est le métier de théâtre ? Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à un ami qui est mort, c'est de jouer sa pièce. Ils ont joué le soir, ils ont joué à Tourcoing. Et alors, ce qui s'est passé, vous savez, au début de janvier, Camus s'est tué en venant de Lourmarin sur Paris. Et il avait, en partant de Lourmarin, mis à la poste des lettres pour tous ses amis, des lettres de bonne année, des souhaits de bonne année pour tous ses amis. Si bien qu'au hasard de la tournée, les comédiens des Possédés ont reçu pendant 2, 3, 4 jours des lettres qui les accompagnaient dans leur voyage et qui leur disaient « Bon courage, bon travail, je suis avec vous, signé Camus ».
Les dernières lettres de Camus. J'ai bien vu à votre réponse sur Gérard Philippe, Vincent Duclerc, que vous ne vouliez pas parler de la vie privée d'Albert Camus. Néanmoins, le 29, le 30 ou le 31 décembre, il écrit 2 lettres simultanément à Catherine Sellers et à Maria Cazares. Bon, bah alors on se voit mardi.
Oui, on peut même ajouter qu'il a écrit une lettre aussi à Mette Ivers, qui était sa jeune amoureuse franco-danoise. Camus, effectivement, aimait les femmes. Et il avait aussi une forme de fidélité, c'est-à-dire que cette fidélité qu'il a amené à dire à son épouse, à Francine Faure Camus, c'est l'infidélité, ce qui, je veux dire, a quand même beaucoup affecté, on peut le comprendre, Catherine Camus. Là, je pense qu'il faudrait faire un livre sur Francine Camus, hein, ça, je milite pour cela, parce que comme on a fait un livre sur Madame Zola. Ce qui est intéressant avec Albert Camus et ses conquêtes, c'est, on le voit dans la correspondance, que ça, les correspondances sont très intéressantes. D'abord, il y a un grand respect, hein, c'est des belles correspondances. On voit aussi comment est-ce que finalement il essaye aussi, avec Maria Cazares, de soutenir la carrière théâtrale de Maria Cazares. Il y a une relation intellectuelle très forte qui le lie avec ses autres femmes. Voilà, je pense effectivement. Alors pour revenir peut-être sur le théâtre, Camus n'a pas cessé d'être homme de théâtre. Hein. Je parlais d'Alger, c'était l'animateur, le patron du théâtre de l'équipe, du théâtre du travail. Hein. Il était à la fois acteur, metteur en scène, il faisait les adaptations, il choisissait le répertoire.
Et là, il songeait à prendre une salle parisienne,
oui.
L'Opéra Comique ou l'Athénée.
Oui, ouais. Parce que il avait eu aussi une grande expérience à Angers lors du Festival de théâtre d'Angers, et il avait envie effectivement d'avoir comme à Alger. Ce qui s'est passé à Alger dans les années 30, c'est vraiment fondateur pour Camus. Il veut retrouver cette inspiration
l'équipe,
exactement.
Le foot, le théâtre,
c'est ça,
l'équipe.
Tout à fait.
C'est avec Michel Gallimard, sa femme, sa fille, qu'il monte dans une Facel Vega. À l'époque, on mettait 2 jours pour remonter de Paris. Arrêt au Chapon Fin, près de Mâcon, et puis déjeuner à Sens, et puis sur la Nationale 5 à Villeblelin, au sud de Fontainebleau. L'accident, c'est le maire qui va procéder à l'extraction du corps. C'est chez l'instituteur, pour raconter ça bien, que le corps est porté. L'instituteur, si vous étiez Alain Finkielkraut, vous en auriez des choses à dire.
Oui, l'instituteur et l'institutrice, hein, c'est Charles et Virginie Peugnet, qui, donc la chapelle ardente est dressée dans la salle de classe. Et le lendemain, lorsque le corps est sorti effectivement de ce lieu public, les élèves forment une haie d'honneur et d'hommage. Et bien sûr, il y a des...
Monsieur Germain, le grand instituteur du départ, et Monsieur Peugnet, l'instituteur du départ.
Louis Germain, il rend hommage à Louis Germain lorsqu'il reçoit le prix Nobel.
Et le lendemain, voici les titres de l'actualité sur la radio nationale. Vous noterez la hiérarchie. L'Algérie. Jamais quelqu'un n'a autant souffert de l'Algérie que Camus, dit d'une manière un peu emphatique Maurice Clavel, est au premier rang.
Paris vous parle.
D'Algérie, quelles nouvelles?
Eh bien, en Algérie, commençons d'abord par les nouvelles militaires. Une bande rebelle a été accrochée près de Magenta. 15 hors-la-loi ont été tués et 5 autres faits prisonniers. D'autre part, l'état-major signale qu'au cours de la nuit dernière, le poste frontalier du Kouif a été harcelé à plusieurs reprises par des tirs venant du territoire tunisien. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a confirmé aujourd'hui comme authentique les extraits du rapport de sa délégation en Algérie, publié hier soir par un journal parisien. On sait que le Comité de la Croix-Rouge s'est déclaré profondément surpris de la publication de ce document confidentiel réservé au gouvernement français et touchant le problème des camps d'internement en Algérie. Enfin, signalons qu'à Alger, le journal Le Monde a été saisi aujourd'hui pour avoir publié précisément l'analyse du rapport de la Croix-Rouge.
Et au lendemain de la mort d'Albert Camus, notre camarade Jean Guedignon s'est rendu sur le lieu du drame dans le département de l'Yonne pour suivre l'enquête qui s'y poursuit actuellement sur les causes de cet accident. Jean Guedignon.
Eh bien, parce qu'il y a un mort, le parquet a ouvert une information et le juge d'instruction de Sens est saisi par le procureur. Il est saisi de cette affaire. J'étais encore sur place cette nuit vers 1h lorsque les gendarmes remorquaient les débris de la voiture accidentée. Lorsque les conclusions seront déposées, le juge devra prendre une décision, vraisemblablement une inculpation, et celle-ci, vraisemblablement, sera pour homicide involontaire.
La gendarmerie, voulait-elle épargner Michel Gallimard, qui va mourir quelques jours plus tard, conclura un accident, et Vincent Duclerc, pendant des mois, et la polémique rebondit même aujourd'hui, on se demandera... Michel Gallimard allait-il trop vite? La roue gauche arrière a-t-elle cédé? A-t-elle été sabotée?
Oui, alors, on sait que Michel Gallimard ne roulait pas trop vite, et puis Albert Camus n'aimait pas trop la vitesse, ainsi que la femme de Michel Gallimard, Jeannine, et leur fille. Donc c'est une défaillance mécanique, hein, et c'est aussi le fait qu'effectivement, dès qu'il y a une sortie de route avec ces platanes résistants, eh bien les voitures se fracassent. Et puis voilà, il n'y avait pas effectivement tous les éléments de sécurité que nous connaissons. Pour revenir en fait sur aussi ce que vous évoquez, les hypothèses, il se trouve que Albert Camus était quand même un des premiers philosophes et intellectuels antitotalitaires, et donc il a été amené à dénoncer les tyrannies du bloc soviétique et à défendre les dissidents. Il faut se souvenir, je veux dire, de la manière dont il va aider Boris Pasternak, et Boris Pasternak qui obtient le prix Nobel un an après Albert Camus, en 1958. Et donc, c'est un défi pour Moscou. Et d'autre part, souvenons-nous, je veux dire, la manière dont Albert Camus va défendre la révolte donc de Budapest, en Hongrie, et attaquer notamment les responsables de la répression. Donc,
Mais de là, imaginez que le KGB délègue les services tchèques pour saboter au chapon fin dans la nuit la voiture.
C'est peu probable, et en plus il faut voir aussi est-ce que c'était vraiment la meilleure des choses, parce que après on a beaucoup insisté, je pense, sur l'action d'Albert Camus. C'est-à-dire Albert Camus va renforcer cette dimension antitotalitaire de la gauche, et donc d'une certaine manière ça aurait été effectivement très contre-productif de la part du KGB d'assassiner Albert Camus.
Les obsèques ont lieu à Lourmarin dès le 6 janvier, avec Robles, Guillou, Jean Grenier, René Char, Jules Roy, puis aussi de simples habitants du village, comme un geste d'universalité pour accompagner l'écrivain disparu. Et en Algérie, vous insistez beaucoup sur la publication d'un numéro spécial de la revue d'Oran, Simoun, auquel participe entre autres, on va l'entendre, c'est une grande chanteuse berbère, Taos Amrouche.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'enterrement de Camus, vu d'Algérie maintenant, avec Vincent Duclerc qui publie un livre sur Camus aux éditions Stock, disponible en librairie demain. Taos Amrouche a participé à l'hommage de la revue Simoun, son frère Jean, dont Camus trouvait qu'il soutenait trop le FLN ou les actions violentes du FLN, n'y a pas participé. Enfin, ceux qui formaient le dernier carré des fidèles camusiens, ils ont, en même temps qu'enterré Camus, scellé un peu leur sort avec ce numéro.
Bah c'est vrai que la disparition de Camus, moi, ça me fait penser à la disparition de Jean Jaurès. C'est-à-dire que, l'absence de Camus, eh bien, c'est l'impossibilité d'imaginer que les bonnes volontés, les libéraux, musulmans et européens puissent s'unir pour empêcher l'extrême violence de la guerre. Et effectivement, après la mort de Camus, c'est le face-à-face entre les ultras de l'Algérie française et le FLN et ses méthodes qui ne valaient pas mieux. Ce numéro a énormément de nostalgie aussi. Et c'est vrai que ce numéro, qui s'appelle Camus l'Algérien, ce numéro de Simoun, donc piloté par Emmanuel Robles. Emmanuel Robles, c'est quelqu'un qui est issu aussi de couches très populaires, d'origine espagnole, grand ami de Camus, et qui avait à cœur, je veux dire, de faire en sorte que les communautés qui avaient été tellement séparées et la communauté musulmane tellement humiliée par la colonisation puissent se retrouver. C'est-à-dire, au fond, la France qui avait apporté le pire pouvait apporter le meilleur en termes de liberté. Donc c'est intéressant d'écouter le projet de Camus sur l'Algérie, et je crois qu'il a quelque chose d'extrêmement actuel que de réfléchir à la manière dont on peut aujourd'hui réconcilier, donc unir des communautés qui apparemment sont si différentes. Et donc dans ce numéro de Simoun, il y a à la fois des auteurs Donc musulmans ou arabes, comme on parlait plutôt des arabes, Kaddour Sadi par exemple, Mohamed Dib, il y a trois femmes donc effectivement, dont Marguerite Taos Amrouche, il y a aussi Catherine Levrouve, il y a Djamila Debbèche, donc c'est un numéro de l'Algérie rêvée, l'Algérie que Camus, que Robles, que le peintre Né Saint-Esse par exemple est assassiné par l'OAS, hein, plutôt kidnappé, et puis il y a aussi ce grand écrivain et qui lui sera assassiné également par l'OS, hein, c'est-à-dire Mouloud Feraoun, qui est présent. Et donc voilà, ce numéro, il faudrait rééditer ce numéro parce que, eh bien, il présente en fait cette Algérie qui s'effondre et que Camus avait rêvé.
Suggestion de réédition, la revue Libertaire Témoin. Parce que s'il avait encore un lien avec un groupe politique, c'était celui des anarchistes. Le dernier texte qu'il a envoyé de Lourmarin, c'était pour une petite revue de Buenos Aires, Anar, qui s'appelait Reconstruire. C'est l'occasion, ou jamais, de faire le parallèle entre Sartre et Camus par un vieux de la vieille de derrière les fagots du mouvement libertaire, Maurice Joyeux.
J'ai toujours été agacé par ces hommes de lettres qui donnaient des leçons aux ouvriers pour savoir comment ils devaient se conduire dans les usines contre leurs patrons ou qui donnaient des leçons aux ouvriers sur des problèmes de révolution sociale. Quand j'étais avec Camus, Camus m'apprenait pas ce que moi, militant ouvrier révolutionnaire, je devais faire chez Renault quand j'organisais avec d'autres un mouvement chez Renault. Il me disait ou il m'expliquait quelle était l'esthétique de ce travail que je faisais. Le Sartre, lui, il a conduit toute une jeunesse intellectuelle dans le sillage du Parti communiste, alors que tout le monde savait, en 1947, 48, 49, tout le monde savait quel était l'état de la Russie. Et il a eu cette réflexion con pour se justifier, on ne peut pas désespérer Billancourt. Moi, quand j'étais à Billancourt, ce qui me désespérait, c'était la transformation de la révolution sociale en un régime fasciste à Moscou.
Le Sartre, vraiment, les Anars lui préfèrent Camus, hein. Oui, au Sartre.
Bah, oui, mais aussi parce que Camus est très fidèle aux intellectuels anarchistes, hein, la revue Témoin, on en a parlé, la revue Liberté, et c'est vrai que les hommages de ces deux revues à la mort de Camus sont très forts, et rappelle aussi que Camus les a toujours accompagnés, notamment par exemple le combat sur l'objection de conscience, par exemple, qui était très important, et donc ça ramène aussi au centre le fait que Camus était un homme de gauche qui ne pouvait pas être rejeté comme l'ont fait les Sartriens.
Et il est intervenu aux côtés de Louis Lecoing, qui faisait grève de la faim au début du régime du général de Gaulle, pour le statut d'objecteur de conscience. Alors le Sartre, il va produire, alors qu'il est brouillé depuis longtemps, avec Albert Camus, un hommage peut-être inattendu et qui est paru dans France Observateur.
Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien. Dût-on ne jamais se revoir. Tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui. Sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire « Qu'en dit-il ? Qu'en dit-il en ce moment ?» Nous attendions, il fallait attendre, il fallait savoir. Quoi qu'il eût pu faire ou décider par la suite, Camus n'eût jamais cessé d'être une des forces principales de notre champ culturel, ni de représenter à sa manière l'histoire de la France et de ce siècle. Mais nous eussions su peut-être et compris son itinéraire. Il avait tout fait. Toute une œuvre. Et comme toujours, tout restait à faire. Il le disait, mon œuvre est devant moi. C'est fini. Le scandale particulier de cette mort, c'est l'abolition de l'ordre des hommes par l'inhumain. Rarement, les caractères d'une œuvre et les conditions du moment historique ont exigé si clairement qu'un écrivain vive. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Jean-Paul Sartre.
Texte publié le 7 janvier 1960 dans France Observateur.
Alors, deux interprétations possibles. Vincent Duclair, il a voulu faire un beau geste qui marque sa générosité, ou bien il a fait un texte parce qu'il était bouleversé.
Olivier Todd, qui a écrit cette grande biographie d'Albert Camus, dit que voilà, Sartre souhaitait aussi faire un beau texte, au sens avoir le dernier mot sur Albert Camus, hein, et donc un peu réécrire l'histoire, parce que c'est pas une brouille qui les a séparés, c'est que Sartre et les temps modernes ont assassiné Camus d'une manière impitoyable. Hein, mais voilà, il faut reconnaître effectivement à Sartre la capacité de peut-être porter l'émotion qui est celle, je veux dire, de tout un monde à la disparition de Camus.
Oui, mais enfin, la bande de Sartre a repris dès que Camus a eu le dos tourné ses attaques.
Absolument, et notamment Sartre lui-même, hein, je veux dire, qui ironise sur l'expression de Camus, ni victime ni bourreau, lorsque Sartre, par exemple, préface Franz Fanon, eh bien, à nouveau on attaque. Et donc là, eh bien, qui va protéger, va riposter, eh bien, ce sont les libertaires, c'est René Char, qui, dans La Rue Témoin, agit pour défendre son ami Albert Camus.
Et puis, on notera, Sartre n'est pas le seul à le dire, en janvier 1960, que ça y est, l'œuvre, elle n'est pas accomplie, elle est inachevée, elle est interrompue, le mot mutilé a été utilisé par Sartre. Le dernier témoignage qu'on va entendre n'est pas celui d'une autorité comparable à Jean-Paul Sartre, c'est Edmond Bruat, qui est un écrivain fantaisiste. Il est très connu pour sa parodie en accent pied-noir, en langage pied-noir du Cid, mais vous voyez, il est capable de beaucoup de gravité et d'intensité.
Aujourd'hui même, dans le monde, tous ceux qui vivent de la vie de l'esprit, les philosophes, les écrivains, les artistes, même, j'en suis sûr, les vrais savants, méditent sur l'œuvre d'Albert Camus et peut-être essaient d'en prendre une vue nouvelle, car la mort transfigure l'œuvre. Et aussi des centaines de milliers d'hommes qui ne sont pas des intellectuels, mais simplement des hommes qui, consciemment ou inconsciemment, traversent l'existence en attendant un message, se rappellent ce qui les a touchés ou bouleversés dans l'étranger ou dans la peste. La perte de Camus est une perte considérable pour la pensée humaine, pour l'humanité. Elle l'est d'autant plus à notre époque tragique, à un moment où l'on peut à la fois tout espérer et tout craindre, où des clartés rassurantes apparaissent au sommet. Cependant qu'à la base, des forces troubles semblent vouloir ressortir de l'ombre. Oh, je ne parle pas dans le vague. Je pense très précisément au réveil monstrueux du racisme. Je pense enfin, si paradoxal que cette idée puisse paraître, que Camus n'avait pas achevé son enquête, ou en tout cas qu'il n'en avait accompli qu'une étape. Je suis sûr qu'à l'âge de 46 ans, dans la pleine maturité de son génie, il se disposait à aborder de nouvelles routes. Il restait lui-même le sujet déchiré de son enquête, de sa quête de la vérité humaine.
Pas si mal, hein, Vincent Duclerc, le sujet déchiré de sa quête, et il s'apprêtait à ouvrir de nouvelles routes.
Oui, donc effectivement, c'est le premier homme hein, qui l'écrit, je veux dire, à Lourmarin, il raconte à Mac Azares, à sa femme Francine, comment est-ce qu'il se donne une discipline d'écriture et je veux dire, le livre existe. En 1994, il est publié. C'est vrai.
Alors, le livre, il était dans la sacoche de la voiture.
Voilà. Et la voiture n'a pas pris feu. Et donc, le manuscrit a été préservé et conservé jusqu'en 1994. Et là, Catherine Camus, sa fille, décide, donc, avec le soutien d'édition Gallimard, de publier Le Premier Homme. Et c'est une révélation parce qu'effectivement, on voit là. Enfin, moi, dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer que Le Premier Homme, c'est, au fond, le temps retrouvé des pauvres. C'est-à-dire la capacité de recréer, effectivement, grâce à des traces, infime, eh bien, à la fois une vie individuelle et une vie collective, donc à travers donc cette enquête aussi, l'enquête du narrateur qui recherche la tombe de son père, qui est à Alger, qui donc c'est un livre très géographique où on se déplace partout et Camus avait aussi le sens, je veux dire, des lieux, de la description des lieux. Et puis on continue à non seulement à lire Camus à travers ses œuvres et La Peste. C'est vrai que La Peste est très donc enseignée dans les collèges et lycées, mais en même temps, je veux dire, c'est aussi un livre qui a une force considérable pour exposer ce que sont les engagements, la difficulté aussi de la lutte, et puis l'humilité. Donc c'est je crois, quelque chose. Si les professeurs enseignent bien La Peste, c'est parce que effectivement La Peste est un grand roman comme L'Espoir. Hein. Et puis peut-être pour terminer, dire que il y a encore, des textes de Camus qu'on retrouve, hein, à la fois les lettres. Hein, et c'est vrai que Camus soignait particulièrement ses lettres. C'était pas du tout apprêté. C'est-à-dire que Camus écrivait bien. Il avait une belle langue. Il arrivait effectivement grâce à des mots, à décrire des émotions, ce qui est quand même pas toujours donné. Et puis, par exemple, ce document, ces trois feuillets inédits que j'ai retrouvés aux Archives nationales, pendant la guerre, Albert Camus adresse au général de Gaulle, via le commissariat à l'intérieur à Alger, un texte sur la résistance, mais aussi ce que sera la France de la libération, et notamment le renouvellement des élites. Hein, et il avait tout à fait raison, et je crois que, eh bien, on en est toujours peut-être là.
Il avait peut-être raison, mais la devise de combat, dont il a été le rédacteur en chef de la résistance à la révolution, ne s'est pas tout à fait réalisée. Merci à vous, Vincent Duclerc. Demain, en librairie, Camus, des pays de liberté, c'est aux éditions Stock. Franck Olivard a préparé cette émission qu'a réalisée Audrey Ripouille avec Pierre-Yves Deroulin.